Il y a une vingtaine d'années, dans l'introduction à un numéro spécial de la revue L'Homme consacrée à l'anthropologie des sociétés amazoniennes, Anne-Christine Taylor et moi avions écrit, je nous cite, vous prie de m'en excuser, le structuralisme marche bien en Amazonie car les autochtones paraissent spontanément structuralistes. Alors il nous semblait en effet, et il me semble encore, que la propension de la pensée amérindienne à prendre appui sur les propriétés concrètes du réel, des choses, pour établir une nouvelle relation, elle-même point de départ d'une connexion originale, subsimant en guise de termes de nouvelles, ou un condensé de nouvelles relations, cette propension non seulement rencontrait des caractéristiques de l'analyse structurale, et notamment son aptitude à faire émerger des agencements complexes à partir de l'enchâssement de qualités glanées à la surface des choses, mais qu'elle avait pu aussi, via l'expérience ethnographique brésilienne de Lévi-Strauss, constituer l'une des sources d'inspiration de son anthropologie elle-même. Autrement dit, outre les deux épouses revendiquées par Lévi-Strauss, à savoir la phonologie structurale et la transformation morphologique thomsonienne de Darcy Wentworth Thompson, et outre les trois maîtresses avouées, Freud, Marx et la géologie, il fallait ajouter, ou il fallait faire place en tout cas, à une compagne de jeunesse, la pensée amazonienne telle qu'elle transparaissait dans les mythes et dans les institutions, laquelle n'avait cessé d'exercer sur lui un charme d'autant plus profond qu'elle ne se laissait guère réduire, à la différence des autres, à une sorte de métalangage dont les règles pourraient être facilement formulées. À cette idée d'une correspondance entre la nature de la méthode structurale et la nature elle-même structurale de l'objet auquel elle s'applique, Lévi-Strauss s'était contenté de me répondre, j'avais apporté le texte, hein, et puis demandé des commentaires, il m'avait dit « Là, vous y êtes allé un peu fort. » À mon exposé sera une réflexion sur cette remarque de Lévi-Strauss, et si on considère qu'au fond l'anthropologie, l'une des définitions possibles de l'anthropologie, que c'est une façon de faire de la philosophie sur des anecdotes, mon propos sera, de ce point de vue-là, pleinement anthropologique. Alors, je vais revenir sur la remarque de Lévi-Strauss. La question qu'elle appelle est à peu près la suivante. Lorsque un anthropologue analyse une pensée indigène et s'efforce d'en rendre compte, quelle correspondance existe-t-il entre les informations de première main ou rapportées dont il dispose, à savoir des énoncés, des actions, assez souvent d'ailleurs déconnectées les uns des autres, les affinités qu'il ou elle éprouve ou pressent entre le style discursif et comportemental qu'il ou elle observe et les modes de conceptualisation qui lui sont familiers ou qu'il ou elle a appris à apprécier, et enfin le degré plus ou moins grand de réflexivité qui affecte les propositions sur lesquelles il ou elle prend appui. Alors je reviendrai dans un moment sur cette notion, sur ce terme un peu mystérieux de pensée indigène. Je préfère centrer mon propos à présent sur certaines propriétés conceptuelles du discours anthropologique lui-même. Et à vrai dire, je partage tout à fait ce qu'a dit l'autre jour Gildas, à savoir que l'opération que moi j'appelle symétrisation, pour reprendre un terme qui est cher à Bruno et que Gildas a appelé délégation, est aussi ancien que l'anthropologie elle-même. Il est même probablement la raison d'être de l'anthropologie. Et donc c'est ce processus au fond de correspondance, de mise, de péréquation entre ces différentes caractéristiques que je viens d'évoquer dont je vais parler. La plus commune de ces formes de symétrisation consiste à développer les implications conceptuelles d'une institution locale de telle façon que son champ d'application dépasse et celui de l'institution originelle et les particularités de la région du monde où on l'a décrite initialement. Alors, dans les débuts de la discipline, ce mouvement de généralisation s'est opéré en dilatant exagérément en extension le sens d'un concept indigène, de façon à lui faire englober une foule de phénomènes disparates qui n'avaient généralement pour point commun que de ne pas cadrer avec la manière dont on appréhendait en Occident le champ de pratique que le concept était réputé qualifié. Donc totem, mana, tabou, chaman, hao, etc. Bon, c'était, tout ça, c'est les blocs, les briques de constitution de la discipline. Avec des effets positifs d'ailleurs, faut-il ajouter, n'en déplaise aux profondeurs de l'essentialisme, puisque cela revenait au fond à transformer en problème philosophique ou en catégorie noétique digne d'être prise au sérieux, ce qui était perçu auparavant comme des superstitions risibles ou condamnables. Dans une période plus récente de la discipline, c'est plutôt en exploitant en intention les conséquences conceptuelles d'une institution, d'un processus, d'un régime de relation ou d'une orientation épistémique, isolée par l'observation ethnographique, que cette opération de généralisation a été réalisée. Donc au lieu d'une expansion démesuré d'un sens initialement imprécis, c'est au contraire un approfondissement et une opérationnalisation d'un sens très précisément défini qui sont recherchés. Donc l'englobement hiérarchique chez Dumont, le va-et-vient entre objectivation ou objectification et désobjectification des relations chez Merlin Strathern, ou le perspectivisme chez Eduardo, qui sont des constructions théoriques initialement destinées à rendre compte de dispositions propres à une ère culturelle particulière, en sont des exemples qui sont maintenant devenus classiques. Sans doute même peut-on faire rentrer dans cette catégorie la réciprocité comme fondement de la vie sociale dont Lévi-Strauss, au fond, a eu l'intuition en observant le fonctionnement des moitiés Broro au Brésil, tant cette notion de réciprocité a acquis dans son œuvre sociologique une dimension instauratrice qui est complètement divorcée du simple fonctionnement des sociétés dualistes qu'il a pu observer au Brésil. Dans tous les cas, l'originalité de ces modèles locaux devenus paradigmatiques et le principe même de leur constitution résulte du contraste qu'il présente par rapport à des façons, disons, occidentales de percevoir et de conceptualiser le champ de phénomènes dont ces modèles rendent compte. Donc le totémisme chez Fraser contraste avec l'idée d'une séparation entre humains et non-humains, la hiérarchie du montienne contraste avec l'individualisme possessif, le Raumosien contraste avec l'échange marchand, etc. Donc finalement, ici, la généralisation d'un relatif relativise un principe général. Passons maintenant à la deuxième forme de symétrisation, c'est celle qui consiste à systématiser une pensée autochtone en un corpus plus ou moins analogue à une doctrine philosophique, à tout le moins dans son mode de présentation. C'est là aussi une tendance ancienne, et même plus ancienne que la précédente que j'évoquais, puisqu'au fond, on peut la faire remonter à une certaine anthropologie missionnaire qui a un réel désir de connaissance combiné à une admiration non moins réelle pour la subtilité des concepts et des opérations intellectuelles dont il entreprenait de brosser le tableau, ajoutait des considérations moins pures, où entrait notamment la célébration de la difficulté de convertir des sages dont les constructions intellectuelles n'avaient rien d'envier à celles de leurs évangélisateurs, et le désir de montrer que certaines de ces constructions préfiguraient en réalité l'esprit, dans l'esprit sinon dans la lettre, des vérités du message divin, ou bien des entités complexes de la métaphysique européenne. La Historia General de las Cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún, qui a été compilée en nahuatl, comme vous savez, au XVIe siècle, est probablement l'exemple le plus ancien d'une opération de ce type-là. les lettres édifiantes et curieuses des jésuites de Chine, dont vous savez l'importance qu'elles ont jouée dans la formation de la pensée de Leibniz, sont un exemple aussi très connu. Une expression plus moderne de cette tendance est la fameuse philosophie bantoue de Placid Temples, qui a suscité, commencé un ample débat parmi les philosophes en Afrique noire, puisque certains, comme Alexis Kagame par exemple, ou bien Mubabige Bilolo, étaient disposés à trouver dans le discours traditionnel de telle ou telle civilisation africaine les éléments d'une véritable philosophie, tandis que d'autres, je pense en particulier au philosophe béninois Paulin Untunji, ne voient guère plus dans ce qu'il nomme avec un certain dédain des ethnophilosophies, lui-même étant agrégé de philosophie, que des études ethnologiques classiques portant sur les représentations africaines du monde et de la personne. Et bien que le débat sur les métaphysiques alternatives ait surtout fait rage en Afrique, et que du fait de la formation théologique de certains des participants à ce débat, ce débat a pu parfois apparaître comme une sorte de tentative de revanche de la philosophie thomiste sur la philosophie hegelienne de l'histoire, ce genre de question n'est pas absent non plus de travaux ethnologiques proprement dits. Alors habituellement, c'est sous la forme des couleurs philosophiques clairement reconnaissables au moyen desquelles un ethnologue va dépeindre les dispositions morales ou épistémiques de la société qu'il étudie. Les exemples abondent, notamment en France, et du fait de l'importance qu'on a à maintes fois ici soulignée de la formation philosophique dans la formation des anthropologues, et notamment de l'importance que la philosophie, notamment la philosophie husserlienne d'ailleurs, a exercée sur les ethnologues de terrain de la première génération. Je pense à une influence indirecte chez Griaule, mais une influence plus directe, mais c'est une chose dont il faudrait parler avec Claude Imbert, qui a évoqué la question l'autre jour, chez Maurice Lennart. Et a eu, au fond, pour effet de proposer à ces ethnologues de terrain de la première génération un paradigme épistémique qui, en allant à l'encontre d'un réalisme cognitif kantien ou néo-kantien, semblait rejoindre des modes de connaissance et de présence au monde que ces ethnographes découvraient loin de chez eux. C'est du reste, je pense, l'une des raisons de la faveur dont a joui la phénoménologie en général chez des anthropologues qui pourtant étaient issus de traditions intellectuelles nationales extrêmement diverses. Je pense à Ernesto De Martino en Italie, je pense à Marcelo Bormida en Argentine, je pense à Irving Allowell aux États-Unis. Et finalement, c'est un mouvement qui est assez ancien aussi en anthropologie. Donc, bien que l'invocation de concepts philosophiques et surtout de l'autorité de certains philosophes soit maintenant devenue très systématique, d'ailleurs plus dans l'anthropologie non francophone que dans l'anthropologie francophone, où on trouve un mouvement assez intéressant dans la jeune génération, où le taux de citation philosophique est inversement proportionnel au degré de formation philosophique par rapport à la situation, je dis, dans certains, notamment dans certains pays anglophones, c'est plutôt l'inverse qui se produirait. En dépit de cette situation, je crois qu'il faut voir cela comme un hommage ambigu assez souvent, tant, à l'exception de quelques auteurs, la référence philosophique demeure superficielle et sert en réalité, dans beaucoup de travaux, à recouvrir d'un voile conceptuel élégant le robuste empirisme qui fait le prix des enquêtes ethnographiques sérieusement menées. Et de fait, les tentatives de donner à connaître des haltères métaphysiques et à évaluer leur incidence subversive sur notre propre façon de philosopher dans le sillage de ce qui a été tenté et à mon sens raté à l'origine par les philosophes africains. Ces tentatives sont encore rares, même si l'écho suscité en France, en particulier par le métaphysique cannibale d'Eduardo, peut laisser augurer une multiplication des vocations. Que ces essais soient le fait d'auteurs autochtones formés à la philosophie occidentale ou d'anthropologues occidentaux qui tirent les leçons d'une pensée indigène selon les canons d'exposition d'un ouvrage philosophique, l'inconvénient, me semble-t-il, demeure d'une exégèse qui bouleverse complètement les conditions pragmatiques d'énonciation et d'usage des propositions qui forment la source de cette pensée. Et sans aller jusqu'à dire, comme Paulin Outunji, à propos des ethnophilosophies africaines, que, je le cite, c'est un simple prétexte pour des disquisitions savantes entre Européens, il faut néanmoins convenir que la symétrisation, dans ce cas, demeure aussi imparfaite. Dans tous les cas, vous verrez, de toute façon, la symétrisation est imparfaite parce qu'elle est impossible. La troisième forme de symétrisation ne vise ni à généraliser la portée d'un principe local, ni à proposer un contre-modèle philosophique inspiré d'une pensée indigène, mais à construire une combinatoire rendant compte de tous les états d'un ensemble de phénomènes grâce à la mise en évidence des différences systématiques qui opposent ces éléments. Vous aurez reconnu là un principe de base de l'analyse structurale qui a été très bien défini par Jean Pouillon lorsqu'il a écrit dans « Fétiche sans fétichisme », je le cite, « le structuralisme proprement dit », c'est une des meilleures définitions, à mon sens, de ce que c'est que l'analyse structurale en anthropologie. « Le structuralisme proprement dit commence quand on admet que des ensembles différents peuvent être rapprochés, non pas en dépit, mais en vertu de leurs différences, qu'on cherche alors à ordonner. » Alors pourquoi est-ce que c'est une symétrisation ? Bien parce que, en bonne logique structurale, la totalisation n'est jamais donnée ab initio, comme le point de vue à partir duquel le Sirius de l'anthropologie va organiser ou va structurer le monde sous son regard impérial, mais qu'elle résulte de l'opération toujours inachevée, au moyen de laquelle des traits culturels, des normes, des institutions, des qualités sont constituées comme des variantes les unes des autres au sein d'un ensemble qui non seulement pourra être reconfiguré autrement si d'autres éléments sont ajoutés, mais qui n'a pas d'autre raison d'être que de subsumer les variations dont il est le théâtre. Donc, loin d'être l'idéologie intellectuelle et la logique immanente d'un nouveau totalitarisme technocratique, pour reprendre la formule pleine de nuances par laquelle Stanley Diamond définit l'entreprise lévi-straussienne, ce type de symétrisation est entièrement dépendant des multiples propriétés que des gens détectent ça et là dans les phénomènes, et il n'exige donc en matière de perspectives surplombantes qu'un peu d'érudition sur la diversité des objets dont on s'occupe, ce qui est la moindre des choses dans une entreprise de savoir. Alors j'en prendrai deux exemples, la pensée sauvage, bien connue ici, donc je serai assez bref, et la table des modes d'identification que j'ai mise en évidence dans « Par-delà, nature et culture ». Dans la pensée sauvage, Lévi-Strauss a rendu compte avec une virtuosité étourdissante de l'une des opérations les plus complexes et en même temps les plus communes de la pensée. C'est une opération qui mobilise depuis longtemps les philosophes, à savoir la transformation du sensible en intelligible. Et il l'a fait à partir de matériaux extrêmement humbles et généralement dédaignés par la philosophie, en examinant la façon dont les taxinomies, les classifications dites populaires épuisent tous les aspects de la réalité sensible dans leur façon de la saisir à plusieurs niveaux au moyen de critères fort divers utilisés tour à tour ou simultanément, le résultat étant une classification qu'il appelle à pas variable, comme une hélice dont l'orientation peut être modifiée et dont la structure peut être mise en évidence pour tel ou tel groupe humain. Donc il est parvenu à montrer de façon très convaincante comment la logique du concret s'arrange pour bricoler des éléments de signification à partir de différences observables dans le monde, sensible, sans présupposer une sorte de modèle mental préalable qui serait soit une projection durkheimienne, soit un prototype psychique inné de type chomskien, et qui serait surimposé sur le continuum des objets perçus comme un calque. Finalement, dans son entreprise, ne sont tenus pour acquis ni gabarit cognitif universel. Tout ce qu'il demande, c'est l'aptitude à détecter dans le monde des propriétés contrastives, des choses qu'on peut concéder quand même, ni supériorité d'une opération intellectuelle sur une autre, puisque Lévi-Strauss prend bien soin, au contraire, de préciser, lorsqu'il compare ces deux modes de connaissance que sont pour lui la magie et la, la magie et la science, ou la pensée scientifique, lorsqu'il dit qu'elle ne se distingue pas par le genre d'opération mentale qu'elle suppose, mais et qu'elle diffère moins en nature qu'en fonction des types de phénomènes auxquels elle s'applique. Et il rajoute plus loin, en fonction des deux types d'approches où la nature se laisse attaquer par la connaissance, l'une étant plus proche, engluée d'une certaine façon encore, dans l'intuition sensible. On ne peut pas nier que c'est un effort soutenu de symétrisation quand même, et qui a été accueilli d'ailleurs comme tel par nombre de critiques horrifiés. Souvenez-vous, c'était à l'époque, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, mais ça peut se lire encore par l'outrecuidance de l'anthropologue mettant sur un même plan les accomplissements de l'Occident et les pauvres fables de ces sauvages. Passons maintenant au groupe de transformation ontologique que j'ai proposé dans Par-delà nature et culture. Il présente certaines ressemblances avec ce que Lévi-Strauss appelle parfois l'ordre des ordres, à savoir le niveau supérieur d'articulation structurale des différents systèmes composant la vie sociale, mais qui serait-elle ici, dans le cas de par de la nature et culture, non pas en fonction d'une intégration de niveaux déjà analytiquement définis, mais comme l'effet d'une hypothèse quant à ce qui est premier dans l'expérience des choses, à savoir discerner, détecter des qualités dans les objets qui nous entourent et inférer les relations à ces objets que ces qualités nous autorisent à établir. Donc la matrice des identifications ne joue pas ici le rôle d'un premier moteur philosophique, elle est plutôt une sorte de dispositif expérimental qui me permet de capturer, donc d'instaurer, et de trier, donc de combiner des phénomènes afin de pouvoir mettre en évidence la syntaxe de leurs différences. Mais il y a plus. En adoptant ce dispositif, j'ai surtout voulu rester fidèle à ce principe fondamental de l'analyse structurale qui veut que chaque variante l'est des autres et non de l'une d'entre elles qui serait privilégiée. Car si j'ai placé la matrice des relations ontologiques au premier plan, par contre, aucune des variantes qu'elle fait apparaître à son niveau, l'animisme, le naturalisme, le totémisme, l'analogisme, et aucune des variantes isolables dans d'autres systèmes qui en sont ces transformations dans l'ordre spatio-temporel, dans l'ordre sociologique, dans l'ordre épistémique, dans l'ordre cosmologique, etc., n'est dotée d'une quelconque prééminence sur les autres. Et ça, c'était une exigence que je m'étais fixée dès le départ, afin de produire un modèle d'intelligibilité des faits sociaux et culturels, disons, qui reste le plus neutre possible par rapport aux présupposés de notre propre façon de voir, notre propre ontologie, etc. Donc c'est pourquoi cette ontologie, je suppose qu'elle nous caractérise, le naturalisme, n'est que l'une des quatre variantes possibles dans les manières d'objectiver certaines des propriétés du monde. Il n'en demeure pas moins que la combinatoire, tant celle de Lévi-Strauss que celle que je propose là, ou d'autres encore, est aussi inaboutie que les deux autres formes de symétrisation. Elle est aussi inaboutie, pourquoi ? Parce que elle requiert c'est pour des raisons différentes, hein, mais elle requiert un savoir général sur les institutions et sur les usages que seul l'Occident a produit, et de ce fait, elle demeure tributaire d'un projet de connaissance singulier, et qui est singulier non pas tant par son ambition universelle, parce qu'au fond, nombreux ont été ailleurs dans le monde des systèmes de connaissance qui ont prétendu rendre compte de tout, que par l'exigence d'exhaustivité planétaire des données empiriques sur lesquelles il s'appuie. Chacune de ces trois façons de symétriser le savoir sur l'autre suppose des types de bifurcations différents à partir des propos que l'ethnographe entend et des actions dont il ou elle est le témoin, des sortes de droits de suite, pour reprendre encore une expression de Lévi-Strauss que je trouve très belle dans La pensée sauvage, qui vont se déployer soit dans la direction d'un approfondissement exégétique, soit d'une généralisation conceptuelle, soit d'une intégration dans un système transformationnel. Il y a encore d'autres possibilités, bien sûr, mais c'est les trois que j'ai évoquées dans ce processus de symétrisation. Mais avant d'examiner plus avant ces trois types de bifurcations et les régimes d'autonomisation que ces bifurcations déclenchent, il n'est peut-être pas inutile de dire un mot sur les données mêmes, au fond, à partir desquelles on bifurque. Essentiellement à l'intention des philosophes, car les anthropologues savent bien de quoi je parle. Par contraste avec la philosophie, qui a évidemment généralement affaire avec des ensembles discursifs qui sont déjà en grande partie réflexifs, l'anthropologue est rarement confronté à une pensée indigène, justement, constituée. Alors, bien sûr, il y a des philosophes autochtones. Il y a des Ogotomeli, il y a des Ival Warjouk, il y a des Davy Kopenawa, mais ils sont très peu nombreux. Et ils sont très peu nombreux, en tout cas, tels qu'ils apparaissent dans la littérature ethnographique. Et tous les ethnologues sont capables de donner le nom de ces grands philosophes indigènes qui ont marqué l'histoire de l'ethnologie. La plupart du temps, les informations à partir desquelles nous bricolons notre savoir, ce sont des énoncés décousus, fragmentaires, le plus souvent incohérents, que nous recalibrons sur le champ en séquences signifiantes afin de maintenir, au fond, le fil d'un contact sémantique avec nos interlocuteurs, exactement comme nous le ferions, comme nous le faisons à la maison, dans une conversation normale. Et même les énoncés un peu structurés sont parfois énigmatiques et demandent une solide maïeutique pour être interprétée. Je vais vous en donner un exemple. C'est ça qui est Je vais à la chasse avec un type, il sifflote. J'ai dit, qu'est-ce que tu sifflotes ? Il dit, je suis anuntin. Anuntin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, j'ai une sorte de disposition, je suis dans un état de disposition intersubjective. C'est ma traduction, hein. Anunt, ça vient de inunt, qui est le cœur. Le cœur qui est la source de la pensée, des émotions, etc. Dans un état de disponibilité intersubjective dans le rapport avec les d'autres êtres dans le monde. Ah bon? Et c'est quoi exactement? Pourquoi tu fais? Parce que c'est quelque chose que je chante dans ma tête. Ah bon? Alors c'est quoi? Alors j'enregistre après. Qu'est-ce qu'il dit? Sritia, petit beau-frère, vivinire, je viens, j'arrive. Attends-moi, avec tes petites sœurs, près du lac là-bas. Ah bon, alors c'est quoi ça? Bah, tout ça, le petit beau-frère, c'est quoi? Bah, c'est du singe laineux. Singe laineux qui va chasser et qui l'appelle petit beau-frère et avec lequel il a un rapport de négociation dans sa chanson parce qu'il l'a vu en rêve. Là, alors, dont on déroule le fil comme ça petit à petit. Et au fond, ce que j'ai appelé l'animisme, c'est tout simplement la conséquence d'un très grand nombre d'occurrences de ce type-là. Qui n'apparaissent jamais évidemment comme un discours réflexif, mais qui sont des séries d'occurrences, d'interrelations avec tel ou tel élément du monde. Alors, Lévi-Strauss appelait ça la mythologie implicite, hein, c'est-à-dire finalement tout ce qui se dégage idéologiquement des activités rituelles. Mais c'est à peine une activité rituelle. Quand on voit les rituels, on imagine que c'est des grands machins avec des plumes et tout ça. Là, c'est des petites opérations quotidiennes que les gens font, qui sont à peine visibles, parce que en réalité, le type sifflote, mais quelquefois, il sifflote pas du tout. Il se contente de chanter dans sa tête. Et en discutant avec les gens, c'est bizarre qu'ils chantent tout le temps. Ils sont comme ça. Ils ont constamment ce lien maintenu avec des humains et des non-humains un peu partout à qui ils racontent des histoires. Bon, c'est à partir de ça qu'on travaille. C'est pas un discours réflexif, hein, c'est pas les antinomies de la raison pure, c'est pas. Et on. Alors, quel type de bifurcation on fait là-dessus? Bon. Quelle est la première bifurcation qu'on peut faire sur des données, si on. On appelle ça des données maintenant, puisque elles ont été filtrées. Hein. Mais sur le moment, c'est pas des données, c'est simplement une conversation avec un type quand on va à la chasse. Quelle est la première bifurcation qu'on peut faire? Ben, c'est une bifurcation de nature compréhensive, pour employer un terme qui est un peu tombé en désuétude maintenant. Mais il faut insister sur un fait que j'ai déjà évoqué, mais qui est très important, je crois, là aussi peut-être pour les philosophes. C'est que lorsque l'ethnographe, dans une situation, disons, de société très différente de la nôtre, s'efforce d'organiser le flux des choses vues et entendues en les synthétisant en séquences structurées et en modèles de comportement, c'est pas du tout au premier chef à des fins spéculatives, c'est pour guider sa conduite. Et la compréhension a d'abord une fonction éminemment pratique, car le travail ethnographique, au fond, c'est un processus accepté de socialisation et d'apprentissage qui façonne dans son corps la conduite et les jugements d'un observateur qui est immergé dans une communauté de pratique. Donc en inférant chez ses hôtes, chez ses compagnons, des schèmes cohérent de comportement, l'ethnographe, il se constitue une sorte de vadémécum qui va gouverner les relations qu'il entretient avec ses hôtes et qui peut ainsi éprouver à tout moment la plus ou moins grande coïncidence des actions dont il est à la fois le témoin et l'auteur avec l'interprétation qui s'en est forgée. Et donc, c'est un mouvement, bien sûr, très caractéristique d'identification de l'observateur à celui qui l'observe, qui est une tentative d'adéquation de soi à l'autre qui n'est pas très originale, qui n'est pas le privilège des ethnographes, mais qui est indispensable dans le cas des ethnographes, parce que si on ne fait pas ça, on peut très bien ne pas savoir où dormir le soir, ou on ne va pas pouvoir bouffer le soir, tout simplement. Donc il y a quand même une fonction pratique qui est très importante, je vois que... je pense que beaucoup d'entre nous ici savons de quoi il s'agit lorsqu'on parle de ça. Et donc c'est pas du tout interprétatif dans un premier temps, c'est interprétatif puisque ça... C'est une fonction centrale dans l'organisation de la vie quotidienne. Mais comprendre, c'est pas seulement comprendre pour soi, c'est aussi donner à comprendre à autrui. Et donc, il y a ce autrui, c'est qui? Ben, c'est la collectivité d'où l'ethnographe est issu. Et donc, en devenant public, l'interprétation fait appel à d'autres procédés, et elle change de nature. Et c'est ici que prend place une deuxième bifurcation, qui est de nature assez différente, hein, et qui va se ramifier en plusieurs voies, dont certaines vont correspondre aux formes de symétrisation que j'ai évoquées il y a un moment. Autrement dit, cette forme de symétrisation que j'ai appelée l'approfondissement conceptuel, à savoir, disons, l'opérationnalisation théorique d'un trait culturel ou d'un concept issu d'une description locale. Cette opération de bifurcation, de symétrisation que j'ai appelée la systématisation exégétique, c'est-à-dire la traduction en langage philosophique, disons, d'une pensée indigène, font d'abord appel à un premier type de bifurcation qui est essentiellement de nature inductive. Un ensemble de faits qui est initialement appréhendé par l'ethnologue à l'intérieur de la totalité où il a été observé, où lui-même est immergé, où il a vécu, où cette induction est nécessaire pour lui permettre la vie quotidienne dans la communauté où il s'est installé, va être envisagé dans un deuxième temps comme une variation au sein d'un ensemble plus vaste de faits analogues qui sont observables dans des sociétés voisines du même ensemble, disons, lesquelles vont exhiber ainsi un style culturel qui fait perdre à l'ensemble original dans lequel l'ethnologue est immergé son exceptionnalité apparente. Et ça, c'est une méthode assez classique que l'école néerlandaise a théorisée sous le nom de ethnologische studieveld, essentiellement à travers l'étude d'ailleurs de l'Indonésie. Alors ça, c'est une première bifurcation. Mais elle suppose évidemment un décollage déjà par rapport au premier type d'induction. Et de là, d'autres bifurcations sont possibles, dont celles qui mènent évidemment à l'intensification conceptuelle et d'autre part à la métaphysique alternative, si on veut. L'une et l'autre procèdent à vrai dire de la même façon, c'est-à-dire par généralisation inductive et par reparamétrage des énoncés, afin de faire affleurer des concepts synthétisant des pratiques jusqu'alors informulées de façon propositionnelle. Donc c'est ainsi que vont surgir l'animisme, par exemple, le perspectivisme, l'englobement hiérarchique, dans un cas, ou bien l'ontologie dynamique bantou, le contre-modèle multinaturaliste, la théorie holographique du sujet, dans un autre cas. Ça, c'est des deuxièmes types de bifurcation. Et la différence entre les deux types de bifurcation, elle est plutôt dans la portée que dans la méthode. Au fond, l'approfondissement conceptuel est une ambition proprement anthropologique, puisqu'il s'agit, en proposant un nouvel outil d'analyse issu de l'étude d'une situation singulière, de contribuer à une meilleure intelligence des propriétés des collectifs en général, tandis que l'exposé d'une philosophie alternative a pour effet de subvertir principalement, c'est ça l'objet, de subvertir la métaphysique classique en montrant que d'autres voies sont possibles pour penser l'être, le monde, les qualités, etc. Un autre type de bifurcation, c'est celle qui mène à organiser des traits différentiels dans une combinatoire. Et ça paraît d'une bifurcation de type assez différent de celle que je viens d'évoquer, de la deuxième bifurcation inductive qui aboutit soit à des exégèses, soit à des généralisations métaphysiques. En effet, elle est de nature différente parce qu'elle semble subordonner l'induction à la méthode déductive. Alors on emploie des grands termes épistémologiques là, mais je pense que c'est indispensable quand même de les mettre sur la table, puisque au fond des objets conceptuels comme l'arborescence par exemple des formes élémentaires d'alliance de mariage que Lévi-Strauss a élaboré dans les structures élémentaires d'apparenté, ou bien la table des modes d'identification que j'ai proposé ne sont pas l'effet direct de généralisation inductive. Ce sont des modèles, c'est-à-dire ce sont des montages matériels qui sont bricolés sous l'inspiration du moment, ce sont des graphes, ce sont des tableaux, ce sont des diagrammes, c'est des visualisations de processus qui figurent donc dans l'espace la structure d'une classe de phénomènes dont on peut conjecturer qu'il manifeste ces phénomènes une régularité. Et donc, le modèle permet de faire des hypothèses sur les relations qui existent entre ces phénomènes et d'étudier ainsi leurs propriétés. Et le moyen est ici adéquat à l'objectif. Et l'objectif, c'est pas de métamorphoser une valeur locale en un concept analytique. L'objectif, c'est pas de favoriser la translittération ontologique. L'objectif, c'est de résoudre un problème très ancien que l'anthropologie, au fond, a hérité du droit comparé, à savoir la question de la compatibilité ou de l'incompatibilité structurelle entre certaines pratiques, certaines institutions, certaines idéologies, etc. Et la seule voie possible pour ce faire, c'est de bricoler des modèles qui permettent de détecter et de déployer des prémices ontologiques qui sous-tendent des régimes de pratique et qui semblent ainsi infuser certains collectifs avec un style distinctif. Alors, à première vue, on pourrait penser qu'il n'y a pas là bifurcation à partir de l'expérience ethnographique, mais un changement complet de registre. Or, il me semble qu'il n'en est rien. Il me semble qu'il n'en est rien, car par contraste avec l'opposition qui est traditionnellement faite, hein, et Lévi-Strauss a été le premier à la faire de façon très systématique, hein, entre l'ethnologie et l'anthropologie, vous vous souvenez de sa gradation ethnographie, ethnologie, anthropologie, opposition qui renverrait à des objets et à des méthodes qui sont bien compartimentées, dont des auteurs d'ailleurs comme Sperber, dans le savoir des anthropologues, dit qu'ils sont incompatibles. Hein. Il n'y a pas ces deux domaines complètement séparés, l'ethnologie d'un côté, l'anthropologie de l'autre, n'a rien à voir. Contrairement à cette séparation principielle, la démarche déductive que l'on suit dans la construction de modèles, il me semble qu'elle n'est pas indemne du tout des procédures préalables qui l'ont rendue possible, et que l'économie de l'exposition, dans mon cas, m'a conduit à rendre un peu invisible. C'est normal. Dans l'économie de l'exposition n'est jamais l'économie de la découverte. Et de fait, mais je pense qu'on peut en dire, autant pour Lévi-Strauss dans les structures élémentaires de la parenté, par exemple, c'est par une série de généralisations inductives portant sur l'ethnographie, tant la mienne que celle des autres, que le modèle transformationnel de part de la nature et culture s'est peu à peu, pour moi, mis en place. Je n'ai, au fond, fait là rien que de très commun, parce que c'est dans le dépôt constamment enrichi des monographies ethnologiques que les anthropologues extraient les éléments qui leur permettent de choisir telle ou telle bifurcation. Et ils le font avec un savoir-faire tout à fait particulier, très difficile à définir, qu'on ne peut pas enseigner, et impossible à formaliser, parce qu'ils s'appuient sur la maîtrise partagée d'un autre savoir-faire, qui est celui de l'expérience ethnographique. Autrement dit, on lit des monographies ethnographiques, parce qu'on a soi-même fait l'expérience ethnographique. Et c'est l'utilisation que nous faisons, nous, anthropologues, des monographies ou des documents ethnographiques qui nous servent dans ce type de bifurcation modélisante, si on peut dire, est complètement informée par notre expérience ethnographique et qui nous rend familières les procédures rarement explicitées du mouvement d'objectivation au moyen duquel d'autres anthropologues ont recueilli, ont filtré et ont présenté des données ethnographiques. Et ce va-et-vient constant entre abstraction et description, induction et déduction, savoir direct, savoir médiatisé, concept local et concept à prétention universelle est probablement ce qui fait de l'anthropologie une science très spéciale et un art finalement de la découverte dont le parfum d'aventure n'émane pas seulement des populations que l'on rencontre mais aussi du caractère de presque esthétique, je dirais, de la construction des interprétations que nous faisons. Et je crois que c'est ça qui, au fond, en conclusion, nous permet, ce qui permet de dire, à la fois que les Indiens d'Amazonie sont spontanément structuralistes et que la pensée lévi-straussienne est inspirée par la pensée des Indiens d'Amazonie. Merci.